Barbès Café est un spectacle musical imaginé et créé par Méziane Azaïch. Il donne à voir en plusieurs tableaux, comme Autant d'époque, l'histoire de l'immigration maghrébine en France. Une histoire de l'immigration qui a commencé au 19e siècle, mais il a fallu attendre beaucoup plus longtemps pour que ces chanteurs soient populaires. Car avant d'être diffusés à la radio, ces artistes qui avaient un autre métier jouaient dans les cafés. Plus tard donc, il y eut la radio comme Radio Le Caire, les Scopitone et les radios libres qui ont permis une expression communautaire. Durant le festival Arabesque, manifestation des arts du monde arabe à Montpellier, avant la soirée Barbès Café, s'est déroulée une table ronde sur les chanteurs de l'exil avec un anthropologue, un ethnomusicologue et le programmateur de l'Institut du Monde Arabe et par ailleurs journaliste et critique musical, Rabah Mezwan. C'est avec lui que nous allons parler de ces chanteurs de l'exil en écoutant les chansons de l'époque ou leurs reprises. Une émission très musicale. Aujourd'hui, vous étiez le meneur d'une table ronde qui s'appelait les chansons de l'exil. Bien donc, c'était pour parler de ces chanteurs qui avaient quitté leur pays. Alors, on parle surtout ici du Maghreb et qui chantaient finalement en France, mais qui étaient écoutés en France et puis dans leur pays.
Enfin, qui ont quitté leur pays, c'est des immigrés. Donc, c'était pour la plupart des travailleurs, soit en usine. Soit dans un circuit automobile, soit dans le bâtiment, certains dans la restauration, et pour certains d'entre eux, bien sûr, avaient ce sens de l'art, ils avaient de belles voix, ils avaient envie de dire des choses, tout en continuant à travailler d'ailleurs. Et ils faisaient ça quasiment pour le plaisir finalement, et puis c'est un des meilleurs exutoires qui soit, notamment la chanson. Pour dire sa condition, pour dire sa douleur, pour dire aussi ses joies. Il n'y a pas que la peine dans l'histoire. Pour dire ses rêves d'amour, ses rêves de retourner au pays aussi, même si c'est une hypothèse qui devenait de plus en plus improbable. Ces artistes avaient un public qui les écoutait, qui les adulait, parce que ce public leur ressemblait tout à fait. Ils étaient à l'image de ce public aussi, les chanteurs, puisque ils étaient dans les mêmes conditions qu'eux. Et donc, ils nous ont légué tout un trésor, un patrimoine qui, heureusement, revisité par de nouvelles têtes d'affiche. J'ai évoqué tout à l'heure Achita, mais aussi Moussa Hakim du groupe Zebda ou l'Orchestre de la Nationale de Barbès, pour ne citer que les plus renommés, leur ont donné un second souffle, une seconde vie.
Cette histoire finalement des chanteurs de l'exil ou des chansons de l'exil, bah forcément ça commence avec les premières immigrations, donc c'est quoi, c'est début du XXe siècle?
Même un peu avant, puisqu'il y a une date un peu qui a été retenue, c'est vers 1863-1864, il y avait déjà des artistes du Maghreb qui se produisaient en France, mais c'était par l'entremise de l'Expo Universelle, qui se tenait à Paris notamment, donc où on a fait venir quelques orchestres. Et puis il y avait des troubadours aussi qui se produisaient dans certains lieux, parce qu'il y avait pas les cafés ne s'étaient développés qu'à partir des années 50, après la libération, on va dire 1945, qui vont devenir progressivement le tremplin, plus quelques cabarets dits orientaux qui sont implantés notamment à Paris, comme le Tam Tam, El Jazair, Soleil d'Algérie, le Liban, etc., qui étaient donc les seuls lieux où ils pouvaient présenter leur répertoire. Et puis il y avait le disque et le Scopitone qui va surgir plutôt Dans les années 60, un peu comme des clips à l'époque, qui vont aussi populariser toutes ces chansons.
Il y avait quoi dans les Scopitones?
Comment t'as dit Sco?
Scopitone.
Scopitone.
Avec Romain Serge, jamais elle a dit.
Tous les Hallyday sont là.
Bonsoir.
Ah, les Claudettes.
Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
Ça veut dire qu'avant qu'il y ait tous ces cafés, là où l'artiste était franchement accessible, où est-ce qu'on pouvait écouter ces chanteurs finalement?
Dans les foyers, là où il y avait la communauté immigrée, là où elle se regroupait. Mais c'était des petites prestations à l'époque, hein. Ça n'avait pas encore l'ampleur que ça aura quelques décennies plus tard. Véritablement, le tournant s'est situé, comme je l'ai dit, au milieu des années 1940. Et là, il commençait à fleurir des lieux qui ne sont pas spécialement pour certains dévolus à ce type de prestations. C'était des scènes de fortune, hein. C'était un ou deux micros, une scène improvisée au fond du café, le plus généralement. Et puis voilà, il y a un public avide d'écouter ces chansons. Et même au niveau du cachet, si on peut dire ça, à l'époque, c'était le bon vouloir. C'était un peu le chapeau, ce qui va devenir le chapeau, même pour les groupes de rock ou du chant alternatif, comme il en existe encore, même à Paris, il y a des bistrots qui produisent encore des groupes de rock qui fonctionnent au chapeau. Voilà, c'est au bon cœur, au bon vouloir du public, donc ils ramassaient quelques francs comme ça, ça leur permettait d'avoir un petit bonus, puisqu'ils travaillaient tous en parallèle, ne pouvant vivre vraiment de leur art.
J'imagine ensuite bien qu'avec la guerre d'Algérie ou la guerre d'indépendance, il va y avoir un petit changement ou pas du tout? Est-ce que ça va se radicaliser? Et peut-être même avant, est-ce que justement ces chants ne servent pas à véhiculer des propos politiques?
Bien évidemment, donc quand il y a eu le 1er novembre 1954, c'est la date du déclenchement de la lutte armée pour la libération. Beaucoup de troubadours ont été priés soit de baisser leur activité, ou certains, justement, comme la chanson est le meilleur véhicule, ils servaient de médias parallèles déjà, pour dire donc les choses, comme je le soulignais. Certains ont été recrutés par le FLN pour des tournées, en Tunisie, en Égypte, en ex-Yougoslavie, pour porter la bonne parole nationaliste auprès de tous ces gens, pour aider à faire reconnaître l'indépendance du pays.
Comment ça se passait? Parce que on pouvait les écouter en France. Que faisaient les autorités politique française?
Non, ils étaient censurés. Certains ont été même embastillés, en quelque sorte. Non, c'était pas en France qui chantait ce type de chanson. Ils pouvaient pas, puisqu'il y a la police qui veillait, il y a les censeurs de tous bords. C'est plus à l'étranger. Mais on sait qu'aujourd'hui, une cause pour être défendue, pour se faire entendre, c'est surtout dans d'autres pays qui vont se faire par la suite politiquement, avec des leaders politiques, les relais de ce qu'ils entendent envoyer comme message.
Donc j'imagine aussi qu'il y avait, alors si on ne peut pas chanter physiquement devant un public, il y a les ondes radio aussi qui étaient présentes à cette époque. La télé avait du mal à pénétrer tous les foyers. La radio était un média très populaire. Est-ce que ces chanteurs, on pouvait les entendre sur les ondes radio?
Pas des radios françaises. Même si à un moment les autorités coloniales ont créé, ça a tenu jusqu'à 1969, ces fameuses émissions en langue arabe et kabyle de Radio Paris, un peu Paris Mondial, qui étaient diffusées. Mais ce n'était pas des chants nationalistes qui étaient diffusés, évidemment. Ce n'était pas des chansons d'amour, même les chansons qui ont trait un peu aux douleurs de l'exil. Mais là où c'était diffusé, la radio qui était captée à l'époque, c'était la Voix du Caire. Partant d'Égypte, diffusait quelques chansons nationalistes algériennes, majoritairement. Et puis il y avait les disques, dont certains se refilaient sous le manteau. Voilà, c'était les deux moyens un peu d'avoir accès à ces chants. Et puis la tradition orale a fait le reste, parce que les gens les chantaient à leur tour, le commun du public, il les diffusait à leur manière, on les chante au nom, auprès des proches, des amis, etc.
J'ai entendu des choses étonnantes hein, dans cette table ronde, notamment une anecdote autour de Lynn Renault, parce que vous le disiez, donc Radio Paris avait des émissions en langue arabe et puis en langue kabyle, avec musique arabe et kabyle, et pour finalement rivaliser avec Radio Le Caire, qui passait du Oum Kalthoum, ils se sont dit, bon, on va essayer de faire pareil, mais avec Lynn Renault. Et alors, ça s'est pas forcément très bien passé.
Ça s'est très très mal passé, effectivement. Parce que pour faire un peu pendant Radio Le Caire, qui était très populaire, qui avait quand même une puissance émettrice extraordinaire, ils avaient mis les moyens, les Égyptiens, à l'époque, les autorités donc, en France se sont dit, un peu pour contrer ces attaques à travers les ondes, on va mettre peut-être... des chanteurs très populaires en France, dont Lynn Renault, qui était une des chanteuses emblématiques de l'époque, et peut-être la faire chanter en arabe pour contrebalancer le message.
Elle n'arrivait pas à chanter en arabe.
Elle n'arrivait pas à chanter en arabe parce qu'il y a un problème d'accent qui est terrible. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'on... La première chanson qu'il lui avait proposée, je ne sais qui en est l'auteur au niveau du texte, mais elle n'arrivait pas à prononcer un mot qui, mal prononcé, normalement ça signifie le cœur, mais mal prononcé ça devient le chien.
Alors on peut peut-être l'entendre, hein, la différence du mot arabe entre chien et cœur.
Oui, kalbi, parce que c'est un ka, ça veut dire mon cœur, mais... Comme elle n'arrivait pas à prononcer le mot ka, ce qui est difficile pour un Français, comme la chanta ou le re ou le jeu, le jeu. Il y a plein de sons comme ça, pas évident. Hein, on connaît ça, comme le fameux the au lieu de the, ou Smith qui devient Smith. Hein, je connais bien ça. Elle a confondu le ka, elle ne pouvait pas le dire, elle disait ka à la place. Donc au lieu de kalbi, mon cœur, elle disait kalbi. C'est mon chien.
Petite subtilité, donc qui a réduit sa carrière à finalement ne chanter qu'en français, hein, pour Lynn Renault.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance, avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence.
Sinon, donc, il y a aussi forcément l'industrie du disque qui a dû s'emparer de ces chanteurs de l'exil. Parce que voilà, le milieu du disque, hein, à partir du moment où l'on vend, on signe l'artiste.
À l'époque, il n'y avait pas de producteur made in Maghreb. C'est venu sur le tard, quand justement les grandes compagnies ont abandonné ce type de chanson. Parce que pour l'instant, c'était encore des Français, ces gens-là, tout de même. Hein. Et puisqu'on était sous le drapeau français, il faut le rappeler, c'est utile. Donc les plus grosses compagnies, il y avait Gramophone, Philips, Tepaz à Lyon, pour ne citer que les plus prestigieuses, se sont emparées du phénomène parce qu'elles avaient vu qu'il y avait de l'argent à se faire avec ces ouvriers, ces amateurs de musique de chez eux, de maghrébines. Et c'est vrai que leurs albums se vendaient à des centaines de milliers tout de même. Donc, et comme les industries du disque, ça n'a pas changé depuis, hein, même si aujourd'hui le disque connaît une crise sans précédent, il y a eu encore une chute des ventes cette année, mais à l'époque c'était rentable. Et tout ce qui est bon, ils s'en foutaient, le côté culturel, ce que ça véhiculait, ce n'était pas leur problème. C'est qu'ils touchaient des dividendes. Et c'est vrai que par ailleurs, ça a favorisé encore plus ça a accru la popularité de ces artistes.
Alors, on peut même parler de disque d'or. Il y a deux artistes notamment qui ont remporté un disque d'or. Il y a le fameux Slimane Azem, qui est sans doute l'un des plus connus chanteurs kabyles, et Noura.
Oui, en 1970, effectivement, ces deux artistes, Slimane Azem et Noura, qui a chanté, elle aussi, à l'époque, elle a fait même un 45 tours entièrement en français. Et parmi les quatre titres, il y a une chanson qui s'intitulait « Cette vie-là », qui était signée d'un certain Michel Berger. Et oui, ils ont été disques d'or parce que, comme je le disais, et disques d'or à l'époque, il fallait en vendre beaucoup. Hein, c'était des millions qu'ont Hallyday ou Françoise Hardy ou Clo-Clo et autres Richard Anthony. Vendait, c'était des millions, donc il rivalisait avec ces artistes qui théoriquement devaient avoir encore plus de public, puisque on va comparer des millions de Français à des centaines de milliers d'immigrations. C'était moins, pas aussi nombreux quand même, mais c'était un marché bien fructueux, effectivement.
Quand on est artiste et qu'on a un disque d'or, théoriquement, on devrait jouer dans les plus grandes salles. Comment ça s'est passé, notamment pour Noura ou pour Slimane Azem, qui était très populaire? Est-ce qu'ils arrivaient à jouer, eh bien, à avoir un public nombreux?
Non, l'accès aux grandes salles, c'est venu plus tard. Hein. Effectivement, Slimane Azem, un peu dans les derniers instants de sa vie, quelques années avant sa disparition, a pu faire effectivement la mutualité, par exemple. Mais là, c'était grâce à un artiste comme Idir, qui a été l'un des premiers à se produire dans des grandes salles. Et d'ailleurs, depuis, après, il y a eu le phénomène Rai et bien d'autres courants. Depuis, c'est banal que de dire qu'il y a une soirée de musique maghrébine au Bercy. Il y a eu Bercy, il y a eu le Zénith, c'est devenu monnaie courante. Ça s'est banalisé. Encore aujourd'hui, au Zénith Paris, chaque année, il y a des événements autour de cette chanson. Mais il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là.
Alors ça, on le doit pas forcément à la télévision française. Est-ce qu'on le doit justement à l'ouverture du monde audiovisuel avec tout ce qui venait des paraboles? Est-ce que c'est ça qui finalement a mis un peu la pression pour qu'il y ait de ces artistes-là en France?
Il y a eu cette fameuse autorisation d'ouverture des radios libres. Et là, il y a eu des associations maghrébines qui se sont engouffrées là-dedans. Et il y a eu des créations de radios, de médias qui sont devenus très forts, comme à l'époque Radio Beurre, qui avait une audience considérable et qui s'est mise à organiser des concerts très grand public.
Ces grands artistes, on en a déjà cité, Slimane Azem et Noura. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et finalement, quelle carrière ils ont eue? Est-ce qu'ils ont pu bénéficier, parce que vous le disiez, donc ils avaient un autre travail, est-ce qu'ils ont pu bénéficier de tout ce qu'ils ont fait pour la chanson?
Malheureusement, beaucoup ont disparu. Bon, ils avaient la reconnaissance de leur propre public, mais disons qu'ils ont, pour la plupart, comme Dahman Al-Harachi, l'auteur de Ya Rayah, il est mort dans les années 80, donc bien avant qu'il y ait eu cette version. Et tant d'autres, Slimane Azem, quand il est repris par Hakim Emous ou d'autres artistes comme l'ONB, c'était un peu trop tard, malheureusement pour eux.
« finalement, des chanteurs de l'exil, est-ce qu'il y en a des nouveaux dans cette nouvelle génération? On fait plutôt référence aux anciens quand on parle de chanteurs de l'exil.
Non, il y a eu plusieurs exils. Quand on parle de la chanson d'exil, surtout l'immigration algérienne des années, allez, on va dire entre 1940 et 1970. Mais après, il y a eu de nouveaux exils. Idir, c'est un chanteur de l'exil, puisqu'il a fui l'Algérie. Il a dû s'exiler en France parce que ça dérangeait le pouvoir, ça parlait d'identité berbère, c'était lié à ses revendications culturelles. Et puis il y a eu le Rail, qui n'était pas une chanson contestataire, mais plutôt transgressive, donc des questions de moralité. Et puis il y a eu les années noires en Algérie, à partir de 1992, qui ont mis tout le monde un peu dehors. On retrouvait plein de chanteurs et des grandes stars, mais d'autres genres aussi musicaux. Il n'y avait pas que des Kabyles ou des Oranais, mais des Algérois, du Chaabi ou des Oréziens qui sont installés pour la plupart en France pour continuer d'exercer leur art. Parce qu'à une époque, ce n'était pas évident de tenir des concerts en Algérie vu le contexte de violence inouïe de l'époque.
La ville blanche écrasée de soleil, où un jour je suis né. Les rues en pente, le pont sur le Rimmel, les jardins d'oranger. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, non. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé.
On pourrait le placer à part, le brave Enrico, mais il fait bien partie des chanteurs de l'exil et cette chanson est sans doute l'une des plus connues, toutes origines confondues. On a pu écouter dans cette émission Salim Alali et la reprise de son Sidir Bibi par La Mano Negra. On a entendu un extrait du film de Jean-Charles Cagnetti, Chanson de l'exil, L'aventure des Scopitones. Nous avons aussi entendu Haït Mengelet, Slimane Azem, tout seul et en duo avec Cher Noureddin, puis Idir Edaman El Arachi qui n'a pas pu profiter du fameux succès de Yaraya, popularisé par Rachid Taha.